Europe 1. Ah 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ici Mathieu Noël en direct du studio Coluche, plus bouillant aujourd'hui que le Vélodrome un soir de Marseille-PSG. La raison de cette effervescence, la thématique de notre émission aujourd'hui à la veille du retour des Bleus face à la Suède en Ligue des Nations, dans Historiquement Votre, on est tous fans de foot. Nous allons partir à la rencontre de trois personnages de l'histoire qui étaient passionnés par le ballon rond, Picasso, Camus et Shakira. Un triangle d'attaque qui excite déjà, je le sens, ce grand fan de foot qui m'accompagne chaque après-midi. Il s'y connaît tellement qu'on l'appelle même le Pierre Ménès au sang bleu. Stéphane Bern, si je vous dis achik-achik-achik Non, aïe-aïe-aïe. Il y a du boulot, hein. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu. Mais oui, c'est ça qui est formidable avec Historiquement Vôtre. Il y en a pour tous les goûts. C'est aujourd'hui, effectivement, on va parler de cette passion footballistique de trois personnages que rien d'autre ne relie. Pablo Picasso, Albert Camus... Et la chanteuse Shakira, dont vous me disiez encore à l'instant, hors antenne, Mathieu.
Oh, je la baiserai mal, mais je la baiserai bien.
Non, mais ça va pas, c'est me détourner des extraits de films pour me faire dire des choses perverses. Mais vous, est-ce que vous êtes allé chercher cette idée?
Mais vous faites ça tout le temps,
mais
vous,
avec moi. Mais vous n'allez pas bien, Stéphane. Shakira, que j'apprécie beaucoup, surtout sa musique, c'est ce que vous vouliez dire.
Oui, enfin, le coup, je suis désolé, ça doit être en régie, le coup est parti tout seul.
Oui, ils ont l'habitude. Ouais. C'est la femme c'était de Philippe, notre réalisateur, le dit souvent, d'ailleurs.
Ouais. En tout cas, au sommaire, comme chaque jour... Clémentine Portier-Kaltenbach nous entraîne sur la pointe des pieds dans l'intimité de l'histoire aujourd'hui à la rencontre d'une dame qui s'appelle Marianne.
Quand on écoute Michel Delpech, moi ça me... Ah, tout de suite, ça me fait vibrer.
Vous voyez, finalement, vous avez un bon fond. Notre journaliste... gastro-histérologue.
Et non pas gastro-entérologue, c'est trop proche de gastro-entérologue. Je pense qu'on devrait changer cette appellation.
C'est vrai, mais vous allez voir, ça fait du bien. Il va nous conter l'histoire du comté, hein, sans en faire tout un fromage. Et moi, je ne m'en laisserai pas compter avec... Ah oui, le quiz pour lequel j'ai révisé une bonne partie de la soirée.
Oui, c'est mon quiz, Stéphane. Vous êtes le candidat, celui qui remet chaque jour son titre en jeu pour nous prouver que vous êtes calé en histoire. Et c'est vrai qu'on commence un peu à en douter.
Non, mais on démarre. Non, mais vos questions. C'est pas des questions d'histoire.
Mes questions sont piégeuses. Vous êtes fort en histoire, vous êtes en cette balèze. Je vais pas vous demander quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Bon, alors, c'est une question technique. Oui, justement. On démarre notre spécial foot avec ce jeune homme qui brille par son érudition, mais aussi sa perfidie. Puisqu'en effet, il fait partie de ces types qui, n'aimant pas le foot, en profitent les soirs de Ligue des Champions pour draguer les meufs que leurs mecs ont laissées seules pour aller voir le match entre potes. C'est là que Castelo Lopez, le prédateur du mardi soir, le Guy Georges d'RMC Sport, entre en action. Il avise une donzelle seule à une terrasse de café, s'approche façon Aldo Machone et lui glisse dans le creux de l'oreille.
Bonjour mademoiselle, je sais quelle est la capitale de la Tanzanie.
Bon, ça marche pas à tous les coups. Alors David se console en nous racontant l'histoire souvent étonnante d'un objet de notre quotidien. Aujourd'hui, vous nous parlez de quoi, David?
Eh bien, je vais vous parler du Wi-Fi.
Du Wi-Fi?
Oui.
C'est super récent, le Wi-Fi, j'imagine.
Certains disent la Wi-Fi. C'est relativement récent, mais ça a ses racines assez loin.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Et oui, vous écoutez Historiquement Vôtre. 2 heures pour raconter l'histoire sans se la raconter. Je suis pas peu fier de ce slogan que j'ai trouvé comme ça un matin dans mon bain.
Comment ça? Que j'ai trouvé. En plus, c'était dans ma douche.
Vous l'avez déposé?
Non.
Eh ben, c'est ce que je disais alors. Que j'ai trouvé. Comme d'ailleurs ce chroniqueur épatant qui chaque jour remonte pour nous aux origines d'un objet de notre quotidien. Bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour. Mathieu, Stéphane, vous vous souvenez de la première scène qui vous a un peu émoustillé dans un film?
Je peux pas le dire.
Je crois que c'était la piscine.
Oui. Non, je vois très bien. Alors moi, c'était les Aristochats, hein, parce que j'ai une sexualité un petit peu particulière, vous le savez. Mais on se connaît pas encore assez pour que je vous dise pourquoi c'est les Aristochats. Mais pour la génération des gens qui sont nés, disons, dans les années folles, la scène la plus haute du monde, elle était dans un film qui s'appelle Extase, réalisé par un monsieur tchèque, Gustav Machati. Extase, c'est l'histoire d'une jeune fille qui trompe son mari avec un homme plus jeune et plus beau. Et c'est considéré comme le premier film de l'histoire à montrer un orgasme féminin. Alors de façon assez voilée, hein, mais quand même on peut pas se tromper. C'était en 1933, donc ça a fait évidemment scandale. Mais ça a quand même lancé la carrière de l'actrice principale qui jouait la femme qui avait l'orgasme et qui s'appelle Hedy Lamarr. Je vois à votre visage que vous êtes en train de vous demander ce qu'une scène de cul dans un film sorti il y a 90 ans peut bien avoir à faire avec,
avec
le
Wi-Fi. Oui.
Mais
ah oui.
Patience, patience, vous allez
enfin,
le savoir.
Ça nous va, hein. Stéphane ne se pose jamais la question. Dès que vous parlez de cul, il est content. Donc, que ça soit relié avec le sujet ou pas.
Je trouve merveilleux qu'en 2020, on parle d'Eddie Lamar.
Mais oui.
On a complètement oublié.
Bah, pas vous, visiblement.
Bah, le truc, c'est qu'avec ce succès, donc plein de souffres, Eddie Lamar, elle a attiré l'attention des studios américains. Et en 1938, elle a signé un contrat avec un des plus gros studios hollywoodiens, la MGM. Et c'est devenu une star d'Hollywood, considérée comme l'une des plus belles femmes du monde. C'est elle qui a servi de modèle au dessin de Blanche-Neige de Walt Disney, mais aussi de Catwoman. Le truc, c'est que parallèlement à cette carrière de sexe symbole du cinéma, et même si elle avait arrêté l'école à 16 ans, Eddie Lamar s'intéressait énormément à l'ingénierie. Et elle inventait des choses le soir, chez elle, entre deux tournages. Et puis est arrivée la Deuxième Guerre mondiale, et là, pour comprendre la suite, il faut que j'explique quelques petits trucs techniques.
Alors là, Stéphane, accrochez-vous.
L'une des principales façons que les navires britanniques avaient pour couler des sous-marins nazis, c'était de leur envoyer des torpilles dans le visage. Et ces torpilles, elles étaient téléguidées avec une fréquence radio. Le problème, c'est que les Allemands ont vite compris comment interférer avec la fréquence choisie. Et du coup, ils avaient le pouvoir de faire en sorte que la torpille, elle devienne un petit peu tarée, qu'elle ne puisse plus être contrôlée par le soldat anglais qui avait les commandes, et qu'au lieu d'aller exploser sur eux les nazis, eh bien, elle explose toute seule plus loin. Eddie Lamar, elle a entendu parler de ce problème.
Mais
et
non.
Mais si. Et elle s'est dit, rien à foutre, je vais trouver une solution.
Vous prêtez toujours des propos assez outranciers.
Elle parlait pas comme ça.
Je refais.
J'ai bien connu Eddie Lamar, elle parlait pas du tout comme ça.
Mais intérieurement, les mots n'étaient peut-être pas cela, mais le sentiment était celui-là. Et elle a inventé, avec son collègue Georges Antel, un système qui permettait de changer à la volée la fréquence de communication entre le contrôleur de la torpille et la torpille. Ce système, elle l'a baptisé système de communication par saut de fréquence. Elle a déposé un brevet, qui existe toujours, et c'est la base technique sans laquelle le Wi-Fi n'aurait pas pu voir le jour. Alors, Eddie, elle a présenté son invention à l'armée américaine, qui lui a dit « fuck », mais qu'il a utilisé 20 ans plus tard sur ses torpilles, sans lui dire, à Eddie, et sans lui verser un centime. Dans la crise des missiles de Cuba, par exemple, tous les navires de guerre américains étaient équipés de torpilles qui fonctionnaient selon le système du saut de fréquence. Donc, en gros, Eddie Lamar, comme beaucoup d'autres après elle, s'est faite bolosser par l'armée américaine.
Mais, vous avez compris, Stéphane.
Oui.
Mais ça ne l'a pas empêché de continuer sa carrière de star, et elle est morte en l'an 2000 à 85 ans, pile poil d'ailleurs au moment où le Wi-Fi commençait à s'imposer doucement dans le monde. Et voilà le rapport entre une scène érotique dans un film des années 30 et le Wi-Fi.
Incroyable.
Vous en restez bouche bée, Stéphane. Vous connaissiez l'actrice. Est-ce que vous saviez qu'elle était à l'origine de cette découverte?
Je savais qu'Eddie Lamar avait une vie à côté et qu'elle inventait plein de trucs. Parce qu'il y a plein d'autres choses qu'elle a inventées.
Oui, elle a inventé. Alors, c'est moins de succès, les autres choses qu'elle a inventées. Elle a inventé en particulier pendant la guerre une petite pastille, un petit peu comme une aspirine effervescente, mais qu'on pouvait mettre dans de l'eau et qui faisait du coca. Sauf que le coca, quel que ça faisait, était dégueulasse. Donc, ça n'a pas marché. C'était beaucoup mieux d'inventer les sauts de fréquence, le Wi-Fi.
Bravo, David Castello-Lopez. Passionnant. Ouais, comme tous les jours.
Europe 1, historiquement vôtre.
L'un avait un joli coup de pinceau, l'autre écrivait pas trop mal, la troisième enfin a vendu quelques disques, mais Pablo Picasso, Albert Camus et Shakira ont un point commun que vous ignoriez peut-être, ce sont tous les trois d'immenses fans de foot. Oui, pour l'occasion, Stéphane a ressorti la corne de brume qu'il agitait en tribune la dernière fois qu'il assistait à un match de foot. Juste Fontaine avait mis 3 buts ce soir-là. Que de souvenirs. Mais concentrez-vous, Stéphane, car c'est bien de Pablo Picasso que vous allez nous parler maintenant.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Le plaisir de la rigolade, l'ivresse du savoir, vous écoutez Historiquement vôtre. 2 heures pour étoffer votre culture historique sans jamais vous froisser un neurone. Aujourd'hui au menu, 3 grands noms de l'histoire, un point commun, leur passion pour le foot. De Shakira à Camus, en passant par le peintre le plus coté du XXe siècle, Picasso, le ballon rond et leur obsession. Or, pour brosser le portrait de Pablo Picasso, qui de mieux que quelqu'un qui possède des Picasso chez lui? 3 déclarés au fisc, mais 17 d'autres au coffre. Stéphane Bern, nous vous écoutons.
Historiquement vôtre. Le récit.
Je sais que vous aimez le foot, Mathieu.
Ah oui.
Je rappelle que pour la première, vous nous avez gratifié d'un beau portrait consacré au numéro 10 par excellence, le chauve le plus célèbre du monde depuis Jules César, Zinedine Zidane lui-même.
Lui-même devant César, Stéphane. Pour moi, César a jamais claqué 2 buts au Brésil en finale, que je sache.
Il a quand même battu la Gaulle et la Belgique tout en jouant à l'extérieur en plus, Mathieu.
On a marqué un point.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas de César dont on va parler aujourd'hui, mais d'un autre chauve qui ne l'a pas toujours été. Pablo Picasso, le prince du cubisme, le peintre espagnol le plus connu dans le monde.
Je t'avais dit qu'on n'avait pas beaucoup d'illustrations sonores, toujours la même.
Pablo Picasso.
Pablo
Picasso
est né en 1881. À une époque où, de l'autre côté de la Manche, le football professionnel naissait aussi. Au fur et à mesure que le foot s'impose comme le sport le plus populaire au monde, les artistes se sont intéressés à sa portée esthétique, sportive et parfois politique. Si, pour beaucoup d'artistes, le foot, c'est un sujet, une commande, pour Picasso, c'est une véritable passion.
Vous voulez dire que Pablo Picasso, c'était le genre à crier au shot l'arbitre dans les tribunes du Parc des Princes, Stéphane?
Ben non, Mathieu.
Vous me rassurez quand même.
Picasso était plutôt du genre à brailler comme un fou dans les gradins de Camp Nou à Barcelone. Ah. Picasso a passé une grande partie de sa vie en France. Il est mort en Provence, vous le savez, en 1973, et il repose toujours aujourd'hui au pied de la montagne Sainte-Victoire. Mais il a grandi en Espagne, entre Malaga et Barcelone. Et quand on vit à Barcelone, ce serait difficile de ne pas respirer le foot dès qu'on met le nez dehors. Surtout que Picasso est aux premières loges quand l'histoire du foot catalan commence à s'écrire. Il a 18 ans en 1899, au moment où naît un petit club de rien du tout, qui s'appelle le Barça.
Le Barça, Stéphane, comme dirait l'autre, c'est énorme!
Mais je le sais, Mathieu. Quand on regarde l'histoire des œuvres de Picasso, ce n'est pas très surprenant qu'il se soit intéressé au foot comme fan d'abord, puis comme artiste ensuite. Le mouvement des corps, le don de l'esquive, l'habileté, la recherche du geste pur, la précision dans l'exécution d'un geste, ça a toujours passionné Picasso. Mais pendant longtemps, il s'y est plutôt intéressé au travers d'un autre trait caractéristique de l'histoire et du mode de vie espagnol, la corrida.
Tout de suite, on reçoit Aymeric Caron.
De Barcelone, dans son enfance, jusqu'aux arènes de Nîmes, quand il s'est installé en Provence à la fin de sa vie, Picasso, il faut bien le dire, a toujours été un aficionado. La joie collective d'un stade entier, ou plutôt d'une arène, il l'a d'abord exprimée avec la tauromachie. Le football, c'est resté longtemps pour lui du domaine du privé. C'est seulement à la fin de sa vie qu'il a fait de cette passion personnelle une œuvre artistique. Au début des années 60, donc, plusieurs œuvres même. Il va à l'époque sur ses 80 ans, il vit en Provence dans son masque qu'il a baptisé l'antre du Minotaure et il commence tout petit.
Qu'est-ce que vous voulez dire par tout petit?
C'est l'œuvre qui est toute petite. Ah. La première fois qu'il représente un footballeur, c'est en 1961. C'est avec une toute petite figurine en tôle de 5 cm de haut à peine qu'on peut voir aujourd'hui au musée Picasso à Paris. Elle est découpée, pliée et peinte avec des couleurs douces, du mauve pour le maillot, du noir et du brun pour le visage, les pieds et les mains.
Disons que 5 cm quand même, pour parler de foot, ça me paraît un peu petit. Le mec a fait quand même plus de 120 000 œuvres dans sa vie. C'est rien, cette petite œuvre de 5 cm.
Oui, mais Picasso n'en avait pas fini avec le foot.
Ah.
Mais moi si, enfin non. Pour l'instant, parce que là, je siffle la mi-temps.
Europe 1, historiquement vôtre.
Qui siffle aussi mal que moi?
Eh ben moi.
Alors que la fin du récit est proche, Stéphane Bern préfère marquer une pause pour mieux se concentrer. Une pause qui n'est pas sans rappeler celle marquée en 2002 par Roberto Baggio au moment de tirer le dernier pénalty de l'Italie en finale contre le Brésil. Espérons pour Stéphane que l'issue ne soit pas la même.
Ah oui.
Porca putana.
Vous en prie, restez poli, Stéphane.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Longtemps, je me suis fatigué à présenter une émission tout seul, ce qui de vous à moi prenait un temps fou en écriture. Et puis cette saison, j'ai trouvé la martingale, co-animer une émission. C'est le plan parfait, je suis payé pareil, et en plus, je peux me délasser peinard pendant que Stéphane Bern en personne me raconte une histoire. Aujourd'hui, dans notre spécial Tous fans de foot, avant de parler d'Albert Camus, vous nous racontez, Stéphane, le destin d'un peintre qui était dingue de foot, Pablo Picasso. Allez-y, je m'installe confort.
Faites votre sieste.
Je vous écoute. Je bois vos paroles.
Oui, oui. Vous savez, c'est comme une actrice qui vous dit « Vous me faites rêver » alors qu'elle avait dormi pendant tout le spectacle. Je vous disais donc, cher Mathieu, que Picasso avait réalisé un petit footballeur en tôle. C'était un ballon d'essai. Picasso, quand il a une idée fixe, il ne fait pas semblant. Tant qu'à être parti sur le foot, il y reste. Les 5 et 6 mars 1961, il réalise 2 lithographies en 2 jours. C'est du Picasso tout craché dans le style minimaliste et épuré de la fin de sa vie. Sur la première, il montre 3 formes vaguement humaines, dessinées d'un seul trait, avec 2 points pour figurer les yeux, une bouche qui sourit et des pointes de couleur bleue et rouge en guise de maillot. Elles ont l'air de disputer un ballon qui ressemble un peu à un œuf sur le plat, avec 3 taches vertes arrondies pour figurer la pelouse. Et il est chaud, Picasso. Le lendemain, sur sa deuxième lithographie,
je sortirai cette phrase de son contexte un jour.
On retrouve les mêmes formes, mais plus nombreuses. 7 joueurs cette fois, mais les mêmes maillots bleus et rouges, toujours ce ballon jaune comme un soleil, et quelques hachures vertes pour représenter le terrain.
D'accord. Un coup, un joueur, une autre fois, trois joueurs, sept joueurs. Vous êtes sûr qu'il s'y connaissait vraiment en football, Picasso, Stéphane?
Parce que... Oui. Et il devait aussi aimer les nombres impairs. Picasso réalise encore une autre œuvre en 1965, 7 ans avant sa mort, une céramique cette fois, qu'il a baptisée le footballeur.
Il était bon pour les peintures, moins pour trouver des titres.
Il mettait son génie dans ses œuvres, Mathieu, pas dans leurs titres. Là, on ne fait pas plus stylisé, plus épuré. Une silhouette qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle de ses lithographies, un attaquant en plein mouvement, les bras écartés, une jambe en l'air et l'autre prête à tirer dans le ballon. Ça fait à peine 30 cm de haut et c'est une petite merveille de mouvement, d'équilibre et d'énergie. Mais le plus beau, c'est que vous ne devinerez jamais à qui appartient la sculpture aujourd'hui.
Pas vous, j'imagine, Stéphane. Ça doit être à côté d'un de vos sets d'or sur la cheminée.
Mais non, Mathieu. Le footballeur est exposé dans un musée. Le Musée National du Football de Manchester, qui a acheté l'œuvre en 2012. D'ailleurs, en 1965, quand Picasso sculpte sa céramique, c'est l'équipe de Manchester United qui remporte le championnat d'Angleterre pour la 6e fois de son histoire.
Mais ça n'a rien à voir avec le sujet, Stéphane. Pourquoi vous nous parlez de Manchester United?
Juste pour vous prouver que je m'y connais un peu.
Vous connaissez les Red Devils?
Qui donc?
Oui, c'est l'équipe de Manchester, je vous ai piégé.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, évidemment, Stéphane, vu que vous en avez une vingtaine chez vous, personne ne pourra vous soupçonner de ne pas bien connaître l'œuvre de Picasso. Néanmoins, pour approfondir le sujet, nous avons tout de même fait appel à un spécialiste. Bonjour Serge Lega.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Pourquoi Picasso s'intéresse-t-il au football? Est-ce qu'il s'intéresse au football autant qu'à la corrida?
Il y a une très très grande différence. Stéphane vient d'en parler. Ouais. C'est que la corrida, c'est une passion qui remonte à son enfance. La première corrida à laquelle il a assisté, il avait 8 ans, et ce sera la passion de toute une vie. Le foot l'intéresse profondément, mais c'est vraiment tardivement qu'il consacre quelques œuvres au football. La corrida, c'est l'œuvre d'une vie. Le football, c'est uniquement les années 60, c'est-à-dire un homme qui a déjà 80 et 81 ans.
Mais pourtant, Serge, on vient de le raconter, il n'a pas peint de tableau sur le foot. Ce sont plutôt des gravures, des sculptures, de lithographies. Pourquoi il n'a pas peint d'étoiles?
C'est ce qui est assez passionnant, c'est qu'au fond, il aime, vous venez d'en parler, il aime profondément le football, c'est un spectacle qui le touche et qui l'enthousiasme, mais il ne consacre pas d'œuvres majeures au football. Les sculptures sont donc des petites sculptures, les lithographies, c'est quand même de l'art un petit peu secondaire, et c'est vrai qu'on n'a aucun grand tableau, aucune œuvre peinte de Picasso sur le thème du football. Je pense que le football, c'est vraiment quelque chose qui était pour lui, et pas une source d'inspiration comme l'est la corrida, justement, qui l'inspire en tant qu'artiste. Le football, c'est simplement un regard de supporter, mais c'est pas quelqu'un qui s'investit dans la création artistique autour du football.
Mais est-ce que ça veut dire, Serge Lega, que pour vous, il y a quand même, par rapport à la corrida, qui est peut-être presque un art pour lui, est-ce que le football, lui, il aime ça en tant qu'homme? L'homme, Picasso, aime voir des matchs de foot, mais il considère que d'un point de vue statistique, c'est moins intéressant, c'est moins noble quelque part?
Moi, je le pense profondément. Je crois que la corrida, ce sont ses racines. D'ailleurs, à partir d'un moment, Picasso, dans les années 1930, va mélanger la corrida et la mythologie, puisque ça sera le thème des minotauromachies, où on mélange minotaure et corrida. Et c'est vraiment une sorte d'implication personnelle de Picasso, puisque le minotaure, c'est un double de Picasso, comme l'était Arlequin dans sa jeunesse. Donc là, il y a une implication qui va au plus profond de lui-même. Le football, encore une fois, c'est un regard de supporter, donc c'est quelque chose d'un peu moins noble, effectivement, en tout cas de moins digne de l'œuvre d'art pour Picasso.
Bon, on va continuer avec vous, Serge Lega, sur Europe 1, à parler de Picasso, d'art et de foot dans un instant.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Deux émissions ont présidé à la création d'Historiquement vôtre. Secret d'histoire, bien sûr, mais aussi Camoulox.
Je mets une jupe culotte et je dois un passant.
Parfait, bien joué. Vous avancez de deux lurons d'entrée.
Vas-y.
Vaza, bien joué.
Je pédale sur un sumo et j'embrasse Sophia Loren sur le cul. Et... Camoulox.
Et c'est vrai qu'a priori, si je vous dis Pablo Picasso, Albert Camus et Shakira, vous avez envie de crier Camoulox. Mais non, car chaque après-midi, nos trois personnages ont bel et bien un point commun aujourd'hui. Leur passion pour le football. Et là, on parle de Pablo Picasso avec vous, Serge Lega, conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts.
Il y a une rivalité avec Salvador Dali. Ah. Salvador Dali était opportuniste, Serge Lega, par rapport au foot, alors que Pablo Picasso était un vrai amateur. Il aimait ça, quoi.
Il aimait ça, alors que chez Dali... C'est un regard complètement différent. Je vais même aller loin. Je pense que Dali avait très peu d'intérêt pour le football et il a même une sorte de mépris pour ce sport. Alors, on lui demandera des œuvres. Alors là, c'est la différence. Picasso crée des œuvres sur le football et Dali réalise des commandes. Et ces commandes sont des commandes, là aussi, assez tardives puisqu'on a un footballeur de 1980 et c'est vrai qu'il fait une œuvre qui est une œuvre alors assez amusante parce que le footballeur, qui est une sorte de spectre squelettique représenté, porte l'écusson catalan au cœur. Alors, quand on sait que Dali n'avait pas une grande passion pour la Catalogne, c'est peut-être aussi un peu le moyen de faire oublier à quel point il a soutenu le général Franco. C'est-à-dire que c'est une œuvre très opportuniste, et puis il y a surtout une chose, et ça pour Dali, ça sera son drame de fin de vie, c'est qu'il aime l'argent et que les commandes sur le football sont très très bien payées.
De l'art,
Dali fait ça.
On lui aurait proposé de peindre du hockey sur glace, il l'aurait fait. Pareil.
C'est exactement ça.
Serge Legac, quel est l'artiste qui a le plus représenté le football dans ses œuvres ?
Alors, le champion de toute catégorie, c'est Nicolas de Staël.
Ah,
et Nicolas de Staël va vraiment, alors lui, avoir un socle. Alors, c'est une histoire assez extraordinaire que je vais essayer de vous synthétiser. Nicolas de Staël assiste en 1952, très exactement le 26 mars, à un match qui est le match France-Suède au Parc des Princes. Ah,
tiens, comme demain soir, ça tombe bien.
Et ben, il en sort, mais complètement ébloui par le match. En plus, c'est une chose passionnante, c'est le premier match en France qui est organisé en nocturne. Donc, il y a toute une nouvelle génération de projecteurs, ce qui fait que lui voit une sorte de balai d'ombre, de maillot bariolé devant lui. Ça le fascine. Et il va faire une vingtaine de toiles, dont une, le Parc des Princes, qui fait quand même 2 mètres sur 3 mètres 50. Et alors ça, je sais que ça va intéresser Stéphane pour sa collection.
Bien sûr.
Alors le tableau a été vendu en 2019 chez Christie's et il a quand même atteint le prix de 20 millions d'euros.
Ah oui.
Oui, 2 mois de salaire. Il peut tout à fait se le procurer.
En tout cas, merci Serge Legat, c'était passionnant vous entendre parler du foot et
comme
de
toujours.
Pablo Picasso et de tous les artistes qui ont peint le foot. Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
La passion du foot, notre thème du jour, une passion dévorante qui parfois rapproche les gens, mais aussi parfois les éloigne. La faute à RMC Sport, tous ces matchs, quand on vit avec un fan, il y a des moments où on en a marre.
Je veux baiser, t'entends, baiser !
Ah, je ne savais pas que vous étiez abonné à RMC Sport, t'es pas
prêt ?
L'heure est venue, vous l'avez compris, d'aller fouiner dans l'intimité de l'histoire. Clémentine Portier-Kaltenbach, diplômée S-Fouinage, va nous rejoindre.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter et qui n'hésite pas à s'introduire, sans autorisation, dans les coulisses de l'histoire.
Oui Stéphane, mais attention, notre historienne Clémentine Portier-Kaltenbach n'aime pas qu'on la réduise à son attrait pour les anecdotes cochonnes des grands de ce monde. Clémentine est une historienne diplômée, pas Madame Claude. Sa vision de l'histoire ne se limite pas aux perversions de Catherine II, au carnet rose de Victor Hugo. Non, Clémentine peut aussi parler...
Des phallus, des seins, des cuisses, des fesses.
Oui, bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Mais oui messieurs, car trop de sexe, tu le sais. Naturellement. Et en plus, il y a quand même des anniversaires dont on ne peut pas faire l'économie. Alors aujourd'hui, nous sommes tous comme un seul homme derrière le maillot tricolore de notre équipe de foot. Je voudrais quand même évoquer aujourd'hui un autre symbole de la République française qui nous est cher et qui, oui, fait partie de notre intimité nationale, en quelque sorte, c'est Marianne. Mmh. Car nous sommes le 4 septembre et nous commémorons aujourd'hui même...
La fondation de la République.
Exactement, le 150e anniversaire de la Troisième République, proclamé le 4 septembre 1870. Alors, est-ce que vous saviez, messieurs, que Marianne était devenue l'incarnation de la République grâce à une chanson ? C'est pas la chanson de...
Pas, que Marianne était jolie.
Oui, qui est chouette.
Hein,
de...
Non.
C'est pas celle-là. Non, ça remonte. Voilà, on adore ça. J'adore cette chanson. Bon, mais Marianne, quand Delpech crée cette chanson, c'est la République. Hein. Mais la chanson qui nous intéresse ici est évidemment plus ancienne.
C'est une révolutionnaire.
Exactement. Du pays albigeois, la Garizou des Mariano. Ah, moi, j'ai pas l'accent que vous avez en espagnol, Stéphane. Ça veut dire la guérison de Marianne. Et c'est une chanson qui a été écrite en occitan par un genre de troubadour cordonnier de Puy-Lorins, dans le Tarn. Et ce monsieur se nommait Guillaume Lavabre. Alors, il écrit cette chanson en pleine Révolution française, une dizaine de jours seulement après la proclamation de la Première République, le 21 septembre 1792. Et dans cette chanson, qu'est-ce qu'il raconte ? Les difficultés du nouveau régime, la République est incarnée par Marianne. En gros, dans cette chanson, on raconte que Marianne est malade et que les remèdes qu'on voudrait lui administrer ne conviennent pas du tout. Alors, une des phrases de la chanson, c'est « Les remèdes de Louis, comprenez Louis XVI, ne sont pas bons, on ne guérit jamais, mais une once d'égalité et de drachme de liberté lui ont dégagé le poumon. » Bon, comme vous l'entendez, les paroles ne sont pas bien fameuses, mais ce qui nous intéresse ici davantage, c'est le choix du prénom. À l'époque, ce prénom Marianne,
qu'est-ce que c'est exactement ? Marie-Anne.
Oui, Marie et Anne, c'est à la fois le nom de la Vierge et de sa mère Anne. Et c'est le prénom féminin le plus répandu. Exactement, le plus répandu en France, dans les campagnes et dans le personnel des maisons bourgeoises. Vous avez sans doute certainement remarqué, Mathieu, que bien souvent dans les pièces de Molière, la servante s'appelle Marianne. C'est donc le nom de la Vierge et de sa mère. Voilà. Et donc, comme à l'automne 92, la République est proclamée, la Convention décide qu'elle sera dorénavant représentée sous les traits d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien, emblème de la liberté. Et comme cette chanson, la Garizou de Marianne, qui assimile Marianne et République, est déjà très populaire, que tout le monde la chante au moment de l'adoption du décret de la Convention, eh ben la République devient tout naturellement et Marianne. Et Marianne, la Marianne révolutionnaire, si vous l'avez en tête, c'est une Marianne, un sein nu. Hein, voilà un petit peu de sexe quand même. Là. Voilà.
Merci, elle quand a même. Le au sein moins nu. Un sein.
Elle est échevelée, c'est une femme du peuple guerrière, coiffée d'un ce bonnet phrygien. Vous savez que le bonnet phrygien, c'est la coiffe des esclaves affranchis dans la Grèce et la Rome antique. Et c'est en ce sens que la Révolution a imposé ce bonnet phrygien pour montrer que les sans-culottes s'étaient affranchis. Alors ce qui est amusant, c'est que quand je vous dis qu'aujourd'hui on commémore la Troisième République, c'est qu'en fait à cette époque-là, le bonnet phrygien a été strictement interdit en France par arrêté préfectoral.
Pourquoi?
Oui, parce que comme il était le symbole de deux épisodes sanglants de notre histoire, la Révolution et la Commune, la République bourgeoise de 70 veut plus entendre parler, et donc Marianne, elle perd son bonnet phrygien, on lui met des fleurs sur la tête, des épis de blé, des lauriers, on lui met un casque ou même des rayons solaires, enfin plus de bonnet phrygien jusqu'en 1869. Après quoi, allez hop, depuis, le bonnet phrygien est revenu sur sa tête et il est dans toutes les communes de France. La seule vague nouveauté, c'est, vous le savez, qu'en 68 et 2003, nos maires se sont mis en tête de choisir les célébrités qui incarneraient Marianne. Oui. Donc, vous en connaissez, vous pouvez m'en citer quelques-unes.
Il y a Brigitte Bardot, il y a Catherine Deneuve, il y a Mireille Mathieu, il y a Laetitia Casta.
Et celle qui plantait, c'est mon choix.
Ouais, Evelyne Thomas, tout Evelyne à fait, Thomas. En 2003. Michel Morgan, Inès de la Fressange, aussi, vous l'avez cité.
Oui, ça avait déclenché une polémique avec Carl Lagerfeld.
On en est resté là.
Qu'est-ce qui tient bien, Lagerfeld?
De toute façon, je ne sais pas si vous le saviez, c'est que tous les maires sont libres de choisir leur Marianne,
absolument.
Et le président de la République ne peut choisir que la Marianne des timbres-poste tous les 5 ans. Alors, il se pourrait que ça change à nouveau, car récemment, une sénatrice a proposé de donner à Marianne les traits de Simone Veil, figurez-vous. Donc, dossier à suivre, mais d'ici là, vive la République et allez les Bleus.
Et vive Clémentine Portier-Kaltenbach, Stéphane.
Oui. Bah oui, restez avec nous surtout, parce que ça va être l'heure de notre face-à-face, tête-à-tête.
Car nos auditeurs ont le droit de savoir, êtes-vous vraiment si fortifié que ça en histoire?
C'est pas des questions d'histoire.
On va le vérifier.
C'est des blagues caramba que vous recyclez.
C'est tout à fait ça, Stéphane.
Quel mépris.
Très très bon, Stéphane. Et vas-y, mordis l'œil.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission dont l'éminent historien de la démocratie Pierre Rosanvallon a dit...
Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la merde.
Non, il a dit c'est super, j'arrête de donner des bibliographies à mes élèves, je leur dis d'écouter Europe 1 entre 16h et 18h, merci Pierrot. Alors, Pierre Rosanvallon est une référence, une sommité, il enseigne à Sciences Po, Clémentine Portier-Kaltenbach est elle aussi titulaire de nombreux diplômes, mais Stéphane Bern. Comme vous dites, Clémentine. On ne sait pas si Stéphane est vraiment la brute qu'il prétend être en histoire, c'est pourquoi je vous propose de le vérifier avec notre quiz. Bern to be alive. Une question, une bonne réponse évidemment, égale un point. Première question, c'est toujours par vous qu'on démarre, Stéphane. C'est la galanterie inversée dans ce quiz, je ne sais pas qui l'a conçu. Première question pour vous, Stéphane. Maurice Marsac. Bon, déjà, je vois aucune lueur dans votre regard. Donc déjà,
Maurice Marsac. J'ai déjà vu une vache dans un pré normand.
Je vois ça.
Il y a la même étincelle d'intelligence dans mon regard.
Je le confirme. Maurice Marsac, connu des cinéphiles, a fait partie des acteurs ayant incarné De Gaulle au cinéma. Il a été tellement imprégné par son rôle, le Maurice, qu'il a demandé à être enterré dans le costume du général. Vrai ou faux?
Vous savez, la mademoiselle Georges, la maîtresse de Napoléon, a demandé à être enterrée dans son manteau de Rodogune. C'est pas exclu, mais en même temps.
C'est pas exclu, ça serait.
Ça aurait
idiot,
été d'un manque de modestie, vous croyez pas, Stéphane, quand même, non.
Ça serait de mauvais goût.
Je veux pas vous influencer, mais moi j'ai ma petite idée.
Moi je dirais non, mais je suis sûr que ça va être oui.
C'est pas une réponse, Stéphane. Qu'est-ce que je dois valider?
Bon, je dis non.
Écoutez... Vous dites non? Eh bien, c'est une bonne réponse,
ah,
Stéphane.
Bah, bah,
c'était,
oui,
c'était un piège. Maurice Marsac a joué De Gaulle, mais il a été enterré en Maurice Marsac. Par contre, Albert Dieudonné, qui a joué Napoléon dans Napoléon de la Belle Gance en 1905, eh bien, lui c'est il a été enterré dans le costume de Napoléon.
Il
question
bien fait.
Numéro 2. Est-ce que Léon Trotsky aurait pu écrire avec un stylo bille? Oui ou non, Clémentine?
Alors, quand est mort Léon Trotsky, je dirais en 38, au Mexique, assassiné à coups de hache, me semble-t-il. Est-ce qu'en 38, le stylo Bic, le baron Bic invente le stylo? Je dirais non.
C'est tellement dommage. Enfin, c'est tellement dommage de voir un beau raisonnement comme ça. Alors, il est mort en 40, on n'était pas loin, mais effectivement à Mexico. Mais vous avez dit 38. Eh bien, le stylo à billes a été inventé en 38 par un journaliste hongrois. Donc, il aurait pu...
D'où ma confusion.
Léon Trotsky. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. C'est dans un bar, après avoir bu un peu trop de vodka, que Vyacheslav Molotov a inventé son célèbre cocktail. Vrai ou faux?
Faux.
Hop. Je n'aime pas quand vous connaissez la réponse comme ça. Vous sabordez mon quiz, Stéphane. Fidèle ami de Staline, Molotov était ministre russe des Affaires étrangères. En 1939, alors que l'Union soviétique bombarde la Finlande, il soutient devant la presse que ce ne sont pas des bombes qu'il largue, mais des denrées alimentaires. Le mensonge est tellement énorme que les Finlandais surnomment le bombardement des paniers pique-nique Molotov. Quand les chars envahissent la Finlande, ces derniers, mal équipés, tentent de les arrêter avec les fameux cocktails Molotov. On ne vous la fait pas, Stéphane, hein.
Mais surtout sur ces sujets, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle...
Vous avez écrit tellement de livres.
Ils sont entrés dans l'histoire.
Ça, on ne peut pas vous mettre ce genre de questions dans le quiz.
Non, c'est un peu...
C'est peine perdue,
non,
quoi.
Non, parce que non seulement je l'ai écrit, mon livre, mais je l'ai lu.
Encore plus fort. Question numéro 4, Clémentine. Ce n'est pas en Égypte que l'on compte le plus de pyramides, mais au Soudan. Vrai ou faux?
Alors, est-ce qu'au Soudan, il y aurait un petit peu des tombes en forme de pyramides? Je n'en ai aucune idée. Je dirais non quand même, parce que les mastabas, c'est quand même très égyptien, même quand ils sont petits. Je dirais non.
Mauvaise réponse, Clémentine.
Oh,
c'est vrai.
Moi,
c'était l'ancienne Nubie, c'est l'ancienne...
Genre, tu savais, toi?
Oui.
D'accord.
Moi,
il y a
oui.
138 pyramides en Égypte, oui. Et il y en a 82 de plus au Soudan, ce sont des pyramides nubiennes. Oui. Par contre, c'est en Égypte qu'il y a le plus de pyramides égyptiennes. J'ai vérifié mes infos.
Ah, c'est bien.
Non, la Nubie, c'est le Soudan aujourd'hui, oui. C'est pour ça ça t'a confusionné.
Non, j'aime bien quand il a la victoire comme ça, immodeste, et qui se permet de
oui, mais moi, ça me fait
derrière.
Du bien de perdre de temps en temps,
oui.
Vous savez.
Quand on gagne tout le temps, c'est vrai que c'est lassant, c'est lassant. Hein.
Mais vous êtes monstrueux, et l'un et l'autre.
Alors attention, cette dernière question vaut 3 points. Donc vous n'avez pas perdu
votre
Clémentine. C'est une décision qui vient de tomber en régie.
Ça m'a coûté un gros chèque, Stéphane.
C'était pas moi, Stéphane. Je ne suis qu'une marionnette entre les mains de notre réalisateur. On se souvient des attaques suicides pendant la Seconde Guerre mondiale, des troupes d'infanterie japonaises. Mais que signifie vraiment Banzai? 3 propositions.
Victoire.
Vive la mort. 10 000 ans. Menu B12.
Attends, redis la première.
Vive la mort.
Oui.
10 000 ans. Menu B12.
Moi, 10 000 dirais... ans. 10 000 ans.
Ah oui, 10 000 ans.
10 000 ans.
Parce 10 000 que, ans, c'est votre dernier mot, Stéphane?
C'est mon dernier mot.
Clémentine?
Banzai, vive la mort. Ça serait bien. Ça serait quoi? Vive à la muerte. Ça aurait quelque chose d'assez viril. Là.
Moi, je surtout dirais, dans la bouche d'un japonais.
Je dirais vive la mort.
Viva la muerte. Non. C'est une mauvaise réponse, Clémentine.
Ah, c'est
Stéphane. C'est Stéphane qui ne fait pas que gagner aujourd'hui. Je dirais qu'il triomphe.
Ouais,
donc, on peut lui reconnaître 10 000 ans. La phrase complète
bravo.
Est « Tenno Eika Banzai », qui signifie...
10 000 ans pour l'empereur.
Qui signifie « Puisse l'empereur vivre 10 000 ans ».
C'est magnifique.
En fait, je le sais parce que pour l'anniversaire de l'empereur et pour le premier de l'an, la foule est là au palais impérial et crie « Banzai, Banzai ». Or, ils ne vont pas se jeter sur les
pilotes. Tu as raison, moi, j'ai pas... C'est dommage, j'ai jamais assisté à l'anniversaire de l'empereur du Japon.
Ah, c'est fabuleux. Derrière une vitre, comme ça, ils disent bonjour.
À cause du coronavirus?
Non, ils sont toujours derrière une vitre. On n'a pas le droit de les toucher. On n'a pas le droit de dire que ce sont des dieux vivants, mais quand même.
Vous, heureusement, on a le droit de vous toucher et vous remportez la victoire aujourd'hui dans le quiz. Bravo Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.
Merci, mes amis.
Est-ce que vous vous souvenez de ce qui nous attend dans la deuxième heure d'Historiquement vôtre? Parce que tout ne s'arrête pas après le quiz quand vous avez gagné.
Bien sûr,
continue.
Mathieu. Comment pourrais-je ne pas m'en souvenir?
Je sais pas, l'âge déjà.
Oh non, okay, franchement, arrêtez avec l'âge. Voilà. À suivre dans Historiquement Vôtre, le portrait de deux passionnés du ballon rond. En tout cas, le premier, c'est vérifié. Oui. C'est le prix Nobel Albert Camus, dont je vous raconterai l'histoire dans un instant. Et Shakira, c'est vous, Mathieu, qui allez nous en parler, en espérant qu'elle colle vraiment à notre sujet, même si j'avoue, j'ai des doutes.
Non, elle colle parfaitement, et vous, comme quoi, vous êtes en pleine forme, hein.
Ah oui, oui, j'ai pas de cheveux blancs, moi.
Peut-être, mais moi, je fais pas de teinture.
Ah ben, moi non plus.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement vôtre. 2 heures pour parler d'histoire différemment, évidemment en compagnie d'un garçon qui lui aussi est différent, Mathieu Noël.
Oui, et à bien des égards, Stéphane. Vous le découvrirez peut-être plus tard dans la saison. En attendant, à la veille du retour des Bleus sur le terrain, on continue notre spécial foot. Car oui, Pablo Picasso, Albert Camus et Shakira, nos trois personnages du jour, partagent la même passion, le ballon rond. Il est d'ailleurs dommage que la réciproque ne soit pas vraie et que les footballeurs ne soient pas passionnés, eux, par Albert Camus, comme le démontrent trop souvent leurs conférences de presse.
Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui.
Ça va, Stéphane, pas trop éprouvé parce que vous venez d'entendre. Prépare les foot quand même.
Ouais.
Et il ne sera pas question que de foot. Qu'est-ce qui nous attend également dans cette deuxième heure, Stéphane?
Vous connaissez le rendez-vous désormais. Vers 17h32 environ, notre chroniqueur culinaire Olivier Pouls excite nos papilles. Aujourd'hui, il nous contera l'histoire d'un fromage star de Franche-Comté, le comté.
C'est logique.
Et je vous raconterai, quant à moi, en toute fin d'émission, l'origine d'une expression qui me tient vraiment à cœur. Avec le mot cœur dedans.
Avec le mot cœur dedans?
Oui.
Vous n'avez pas le droit de dire ce que c'est à l'avance?
Le cœur sur la main.
Ah, le cœur sur la main. Ah oui, tiens.
Vous savez pas ce que c'est?
Je ne sais pas d'où ça vient, surtout, oui.
Ni d'avoir le cœur sur la main.
Non, ça c'est vrai aussi. Bon programme. Au fait, c'est quoi votre chronique préférée? Moi, c'est la mienne.
Je crois que c'est la vôtre aussi.
Vous êtes trop bon.
Ouais.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il y a bien des manières d'écouter Historiquement Vôtre, l'émission qui raconte l'histoire sans se la raconter, en direct sur le chemin de l'école pour aller chercher vos enfants, en zigzagant négligemment entre les cyclistes de plus en plus nombreux. Tiens, un de moins. Ou en décalé, en podcast, dans votre bain, tard dans la nuit, pour vous remettre des émotions d'une journée éprouvante, où vous avez quand même enchaîné 3 réunions, rédigé 27 mails et buté un cycliste, vous méritez de vous délasser nu dans votre baignoire avec Stéphane Bern.
Oui.
Stéphane, je suis personnellement en position. Parlez-nous d'Albert Camus.
Historiquement vôtre. Le récit.
Mathieu, la France est un pays de football.
Indéniablement.
Et la France est un pays d'écrivains.
Aussi.
Mais à quelques exceptions près, rarement les deux à la fois. Entre les écrivains et le football, on a soit de l'indifférence, soit chez certains, en tout cas, une sorte de condescendance pour le sport le plus populaire au monde. Albert Camus fait presque figure d'exception. Il est un romancier qui a aimé le football et qui l'a défendu bec et ongle. Pour l'auteur de La Peste ou de l'Étranger, prix Nobel de littérature en octobre 1957, le football a été une sorte de boussole, une école de la vie.
Ce que vous êtes pour moi, en quelque sorte, Stéphane, un phare dans la nuit.
Quand l'annonce du prix Nobel de Camus est révélée, toutes les radios et tous les journaux de l'époque en font leur gros titre. Tous. Même l'équipe. Le 17 octobre, en une du quotidien sportif, on peut lire ce titre presque surréaliste. Albert Camus, ancien Gaul du RUA, prix Nobel de littérature. Et l'équipe a raison. Avant de devenir l'un des écrivains les plus célèbres au monde, Camus a bien été, dès l'âge de 16 ans, gardien de but du Racing universitaire algérois, le RUA. Une grosse équipe auréolée du titre de meilleur club de France en 1951, quand l'Algérie où est né Camus était encore un département français. Le Racing, c'est le club des élites, celui des profs, des universitaires, même si on trouve aussi quelques gamins méritants, comme Camus. Parce qu'Albert Camus ne faisait pas partie des plus favorisés des pieds noirs. Loin de là, il était orphelin. Son père est mort en 1914, tué au front, un an après la naissance de son fils. Camus a grandi avec sa mère et sa grand-mère, toutes les deux presque illettrées. La famille vit dans un des coins les plus populaires d'Alger, loin des beaux quartiers. Le football du petit Albert, c'est celui du coin de la rue. Le foot qu'on joue avec les copains en figurant les buts entre deux cartables.
On l'a tous fait. Vous, Stéphane, vous avez joué au foot comme ça avec les cartables?
Si, j'ai joué ça dans les cours de récréation, mais j'étais pas très, très doué.
Vous ne disiez pas très doué. Il n'y a pas des témoignages vidéo qui survivent de ça? Non, ça n'existe pas.
Non, à l'époque,
pas.
Ça n'existait pas, la vidéo.
Non, plus par Super 8.
Il est tout maigre, Camus, à l'époque. 50 kilos tout mouillé. Ce qui ne l'empêche pas de briller dans les cages. La preuve, On a une trace de lui dans le bulletin du club en 1930 après un match perdu 1-0 par l'équipe junior. Le meilleur de tous fut Camus, qui ne fut battu que sur cafouillage et fit une splendide exhibition. Bref, Camus a 17 ans et il est doué.
Est-ce qu'il aurait pu devenir joueur professionnel, Camus ?
On ne le saura jamais. 2 mois plus tard, Albert se met un matin à tousser du sang.
Ah.
À l'hôpital, le verdict tombe. C'est la tuberculose. La maladie change complètement la vie de Camus. C'est fini pour le foot. C'est fini aussi pour l'enseignement. Camus est trop fragile. La tuberculose le dirige vers les seules activités qu'il peut encore mener facilement, le théâtre et l'écriture. Au lendemain de la résistance qu'il a rejoint en prenant la tête du journal Combat, les succès s'enchaînent. La peste, les justes, l'étranger, l'homme révolté. En 10 ans, il s'impose comme l'un des meilleurs auteurs français, l'un des grands intellectuels engagés des années 50, toujours à ferrailler avec des figures comme Sartre, Beauvoir, Mauriac et bien d'autres. Mais si célèbre qu'il soit au fond de lui, Camus reste le petit pied noir d'Alger qui jouait au foot avec ses pauvres godasses de gamins pas riches. Et le foot, Camus continue, comme supporter cette fois. Il soutient le Racing Club de Paris dont les couleurs bleues et blanches sont les mêmes que celles du Racing d'Alger. En octobre 1957, juste après le prix Nobel, Camus est au Parc des Princes pour applaudir son club en Coupe de France contre Monaco. Après un but encaissé par le Racing, après une grosse erreur du gardien, un journaliste lui demande une réaction. Camus, l'ancien gardien de but, botte en touche. Il ne faut pas l'accabler, c'est quand on est au milieu des bois que l'on s'aperçoit que c'est difficile. 2 mois après avoir fait la une de l'équipe, en décembre 1957, France Football ressort un texte de Camus publié des années plus tôt dans le journal de son ancien club d'Alger. Dedans, on trouve une vacherie à peine voilée pour le milieu germano-pratin qui ne l'épargne pas franchement. À commencer par Jean-Paul Sartre.
Vous n'étiez pas franchement copain avec Sartre, hein ?
Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. « J'appris tout de suite, écrivait-il, qu'une balle ne vous arrive jamais du côté où l'on croyait. Ça m'a servi dans l'existence, surtout dans la métropole où l'on n'est pas franc du collier. » Un peu plus loin, on trouve ce qui est peut-être une des phrases les plus célèbres à propos du foot. « Ce que finalement je sais de plus sûr sur la morale et les obligations des hommes, c'est au foot que je le dois. » L'idée que le football est une école de la vie, Camus en parle souvent, toujours pour défendre la solidarité, l'engagement, le respect de l'adversaire, la fidélité à ses couleurs. Le football, pour Camus, c'est une morale. On y gagne, on y perd ensemble, dans les règles. On y apprend à être solidaire dans la défaite, humble dans la victoire. Et cet amour du football, ça va être la marque de Camus jusqu'à sa mort, et même jusqu'après sa mort.
Europe 1, historiquement vôtre.
Si vous êtes toujours dans votre bain, eh ben vous avez le temps de vous frictionner un peu avec le pousse-mousse. Sa Majesté Berne marque une pause, officiellement pour ménager un certain suspense, officieusement parce que même les gens très élégants vont parfois faire pipi.
Stéphane Bern et Mathieu Noël, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue 2 heures pour comprendre le lien qui unit Pablo Picasso, Albert Camus et Shakira. Camus n'a jamais peint, Picasso n'a jamais chanté, Shakira n'a jamais lu La Peste. Pourtant, ils ont un point commun, celui d'être tous les trois fans de foot comme vous, Stéphane.
Oui, on ne peut décidément rien vous cacher, Mathieu.
Je sais tout.
Mais notre véritable fan de foot aujourd'hui, c'est le prix Nobel de littérature, Albert Camus. Et je vous le disais, le foot a accompagné Camus durant toute sa vie, jusqu'au bout, jusqu'à sa mort brutale à l'âge de 46 ans dans un accident. Le 2 janvier 1960, la Facel Vega de son ami l'éditeur Michel Gallimard quitte la route détrempée et finit sa route contre un platane, non loin de là où il vivait. Avec l'argent du Nobel, Camus s'est acheté une maison dans le Luberon à Lourmarin. À Lourmarin, il y a une équipe de foot, la jeunesse sportive lourmarinoise. Vite adopté par le village, Camus décide de soutenir le club en offrant des maillots à toute l'équipe. Et c'est cette même équipe de joueurs qui a porté Camus vers sa dernière demeure. Lors de son enterrement, ce ne sont pas des écrivains, pas des officiels, pas des politiques que l'on peut voir autour du cercueil en chêne de l'écrivain, mais bien les membres de ce petit club de village du fin fond du Luberon.
Stéphane, je pense qu'on a vendu notre émission comme quelque chose de gay et rieur. Là c'est gay comme conclusion, dites-moi.
Mais j'ai pas terminé, Mathieu.
Ah, il va se passer quelque chose de gay?
Simplement parce que le lien entre Camus et le foot ne s'arrête pas à sa mort. Le football est immortel grâce à ses livres. On en trouve des traces dans quelques-uns de ses ouvrages comme autant de petits cailloux. Mais il y a un livre, surtout un livre posthume, Le Premier Homme, une autobiographie à peine déguisée que Camus n'a jamais terminée, mais qui a été publiée en 1994, soit 34 ans après sa mort. Le héros, Jacques Cormery, est un petit pied noir, un adolescent maigre et musclé, aux cheveux en broussaille, orphelin de père, qui joue au foot comme gardien de but dans l'équipe de son lycée. Quand il a fallu trouver une illustration pour la couverture du livre de Camus, sa fille Catherine a choisi une photo de son père au milieu de ses coéquipiers en tenue de gardien de but. Et sous sa casquette, Camus a un grand, un magnifique sourire, celui d'un gosse qui adorait jouer au foot et qui a aimé ça toute sa vie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors Stéphane, je sais que vous avez lu tout Camus, sauf bien sûr L'homme révolté parce que vous détestez ce qui a trait à la révolte. Néanmoins, pour vraiment tout connaître de Camus, j'ai préféré qu'on vienne un spécialiste. Bonjour Hubert Arthus.
Bonjour à tous les deux, bonjour à toutes et à tous.
Journaliste, principalement dans les domaines de la littérature, de la pop culture et du foot, auteur de Galaxy Foot, dictionnaire rock, historique et politique du football, dans une nouvelle édition augmentée qui vient de sortir aux éditions Point.
Ça c'est joyeux.
C'est sérieux, c'est joyeux. Mais c'est vrai, Mathieu, on le disait peut-être, Hubert Arthus, vous allez pour nous le confirmer. Pour Albert Camus, le foot c'était une morale. C'était, il l'écrit, c'est l'école de la vie.
Exactement. Il écrit vraiment le peu de morale que je sais. Je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre. Qui resteront mes vraies universités, hein, c'est ce qu'il écrit. Et c'est une partie d'Intrigue de la peste, puisque ça se passe dans un stade qui est réquisitionné, comme vous le disiez, de manière néanmoins joyeuse, pour accueillir les malades.
Mais est-ce qu'il a pas un peu intellectualisé le foot en y voyant une morale et tout ça? C'est juste quelqu'un qui kiffait le foot, comme beaucoup d'entre nous.
Oui,
et comme
mais quand
il était Camus, il s'est dit, je vais quand même expliquer en quoi c'est noble et magnifique.
Il l'a dit à sa sauce. Alors il se trouve qu'il est romancier, écrivain, fictionneur, philosophe, donc ça peut être vu, et c'est pas négatif comme intellectualisé. Quand on a une passion, ça peut être la science, ça peut être la gastronomie, ça peut être le football, ça peut être les fringues, ça peut être le son, ça peut être ce que vous voulez. On le ramène à soi, on le ramène à son langage. Si mon langage, il est un peu intello, ça, je vais en parler de manière un peu intello. Si mon langage, il est un peu tapé, un peu onirique, un peu rêveur, je vais en parler de manière tapée, onirique, rêveur. Si ma passion, c'est l'histoire, je peux en parler aussi comme ça. C'est là qu'on voit la passion, c'est la façon dont on l'intériorise et qu'on l'universalise.
Mais ça lui a joué des tour. Notamment, vous le dites, la rumeur veut que son attrait pour le foot nuisit à son aura dans les sphères intellectuelles parisiennes. Il en a vraiment souffert ou c'est une légende que...
Alors c'est à la fois une légende urbaine qui a été l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme. C'est vrai qu'à cette époque-là, les hommes et les femmes politiques, malheureusement il y avait plus d'hommes politiques que de femmes politiques, les écrivains, les gens de pouvoir d'académie lisaient l'équipe.
Mais ils
sauf qu'il le planquait pas dans Playboy ou pas dans New Look ou pas dans Penthouse ou quoi, il le planquait dans Le Figaro, dans Le Monde, voilà. Mais il le lisait. Il y a beaucoup d'écrivains qui disent ça.
Et lui, il en faisait un des premiers à l'assumer, quoi.
D'ailleurs, il a appelé une de ses troupes de théâtre l'équipe. En hommage à ça.
On va continuer de parler de ses fans de foot et du prix Nobel Albert Camus avec Hubert Arthus dans un instant, mais restez sur Europe 1.
Bah, évidemment. Où voulez-vous aller?
Nulle part.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il y a trop longtemps, l'histoire, ce fut ça.
Nous allons parler ce soir du 18 Brumaire.
Ah, j'aimais bien, moi.
Du 19 Brumaire.
Oui, c'est oui, du 20 Brumaire. Vous
parce qu'il s'agit d'une
chaque
crise.
Chaque après-midi, avec mon complice Stéphane Bern, je vous propose de dépoussiérer l'histoire, de secouer le lagard des Michards avec Historiquement vôtre. 2 heures pour vous faire découvrir les grands de ce monde sous un jour nouveau, sans tabou, comme le duc de Winchester hier.
Qui d'entre vous est prête à s'envoyer en l'air avec un prince de sang, fils du roi d'Angleterre?
Chaque après-midi, trois personnages que tous semblent séparés et qui ont pourtant un point commun. Aujourd'hui, leur passion du foot. Après Picasso et avant Shakira, on parle d'un autre grand footeux, Albert Camus. Avec vous, Hubert Arthus, vous publiez Galaxy Foot, dictionnaire rock, historique et politique. Du football qu'a dévoré Stéphane.
Aux éditions Point. Et justement, vous réconciliez au fond les intellectuels et le foot. Mais c'est vrai, vous le rappeliez à l'instant, il y a une dichotomie. Il fallait surtout pas dire, quand on était soi-disant intellectuel, tout le milieu germano-pratin faisait mine de mépriser le foot.
En France, c'est pour ça que je pense que la France n'est pas un pays de foot. La France était plus un pays de rugby parce que le rugby a à voir avec la séparation de l'État, son esprit de clocher. c'est dans les années, donc 1900, jusqu'aux années 1905. Le football, c'est une invention anglaise qui est arrivée dans le reste du monde après. Le football, il est vissé à l'âme anglo-saxonne, au rock anglo-saxon, à l'écriture, au roman, à la fiction, au film, à la façon de vivre à Londres, à Manchester, à Liverpool. Il est vissé à l'âme britannique, comme la poésie est vissée à l'âme slave ou à l'âme russe. En France, c'est pas ça. Donc on sépare, elles sont un peu en l'impression,
ça résonne en cas. Il y a cette idée, vous savez, la différence qu'on donne entre le foot et le rugby. Le rugby, on dit, ce sont des gentlemen qui se comportent comme des voyous, et le foot, c'est le contraire.
Exactement. C'est vrai que ça a longtemps été vu comme ça, jusqu'en 80, jusqu'aux années Platini, et surtout 98, oui. Puisque en France, l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, et c'est ça qui a, en France, plus mis d'accord tout le monde.
Sur le rugby et le foot, c'est marrant, parce qu'il y a une phrase de Camus que vous citez dans votre ouvrage. Le football, c'est pour les gens de gauche, le rugby, c'est pour ceux de droite. Camus disait ça. Oui, ouais, oui. C'est fou.
Mais c'est vrai que le rugby était joué par plutôt des aristocrates.
Oui, bien sûr. Oui.
Et qui s'encanaillaient, qui se mettaient dans la boue et faisaient la mêlée.
Alors qu'au départ, le football est né dans les écoles des hautes sphères en Angleterre, dans les années 1840-1850. Et justement, c'était parce que le rugby était trop violent. Donc nous, on est un peu plus de la haute, on va pas risquer ça. Donc nous, on va jouer avec les pieds. Et coup de tête interdit, coup de poing interdit, plaquage interdit.
Mais donc, ça veut dire que dans la littérature anglaise, on trouve beaucoup plus de références au foot qu'en France. Et qu'en France, eh bien, on a sorti le prix Nobel Albert Camus parce que c'est presque le seul, en tout cas le plus évident.
C'était le seul à cette époque-là, c'est sûr.
Oui, il y en a eu d'autres. Il y a eu Olivier Guèze avec l'art de l'esquive.
Alors, c'est pas une fiction, mais effectivement, le super art de l'esquive. Ouais. Il y a eu François Bégaudeau, dont le premier roman jouait juste. Alors, c'est un truc, là, pour le coup, un peu intello, un peu tapé, où il compare la stratégie d'approche rhétorique d'une histoire d'amour à la stratégie de football du FC Nantes de l'époque. Bon, c'est publié chez Vertical.
Tout est dit.
mais c'est quand même pas mal. Oui. Maïs de Kerangal a écrit sur le foot. Mais voilà, en Angleterre, il y a David Peace. En Écosse, il y a Irvin Welsh. Il y a Nick Hornby. Voilà.
Et c'est quoi la teneur de... C'est des romans?
Alors, ce sont des romans et ce sont des gens qui nous racontent la vie de gens qui vont au pub ou qui vont répéter le rock dans leur garage ou autre et puis qui après vont au match de foot. Mais comme en France, on écrirait quelqu'un qui va à l'université ou vit son quotidien parce que ces contrées-là, ces villes-là, ces mégapoles-là ont une manière de vivre leur vie, leur rapport à la classe sociale et même parfois leur rapport à la religion, puisqu'en Grande-Bretagne, il y a souvent eu des clubs protestants contre des clubs catholiques, des clubs de gauche contre des clubs de droite. Il n'y a qu'en France où il n'y a pas deux grands clubs dans une seule ville. Oui, à Milan, vrai, à Londres, vrai, à Manchester, à Liverpool, à Madrid, à Barcelone.
Bien sûr, il y a deux.
Vous avez, parce que ça fait partie de l'histoire, soit sociale, soit religieuse. Alors, religieuse pour ce qui est de la Grande-Bretagne, parce que protestant contre catholique, et ça marque tous les pays d'Irlande et de Grande-Bretagne. Et donc, ils ont ces écrivains-là, la magie de vous expliquer comment est-ce qu'on va au stade, puis après au match de foot, puis après répéter, puis après faire l'amour, puis après au bar, puis après dans la rue.
C'est une
puis
vie après passionnante.
Voilà. Ça fait partie d'un tout.
Mais vous m'ouvrez des horizons incroyables.
Voilà. Plutôt que d'aller vous balader dans des châteaux.
J'ai trouvé la vie rêvée. Merci Hubert. Rappelez le titre quand même.
Galaxy Foot, dictionnaire rock, historique et politique du football aux éditions Point, dans une nouvelle édition augmentée.
Europe 1, historiquement vôtre.
Après avoir farfouillé dans les coulisses de l'histoire, et si nous nous invitions à présent dans les cuisines de l'histoire? Car l'histoire d'un plat peut être aussi excitante qu'une histoire d'alcôve, surtout quand c'est Stéphane Bern qui a fait la cuisine.
Qu'est-ce que c'est, du gondin à ma façon?
Ah, c'est délicieux. Ce sont deux cuisses de chevreuil fermes et délicatement écartées.
Oui, Stéphane.
Fourrées de crème.
Oui.
Épaisse.
Oui, c'est la très bon.
De vin blanc chaud qui ruisselle sur les parties charnues.
Oui.
De la bête.
Oui, ça a l'air très bon en tout cas, Stéphane. Restez avec nous. Olivier Pouls arrive pour Papilles de la Nation. Chaque jour, l'histoire d'un plat et sa recette, évidemment.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Avec Mathieu Noël, chaque après-midi, on se régale en vous racontant l'histoire à notre manière, sans façon, et parfois même, on se régale au sens propre, au moment d'évoquer l'histoire d'un plat.
Oui, Stéphane, au-delà de notre passion commune pour l'histoire, étant français, nous adorons également cuisiner. Ceux qui, d'ailleurs, comme moi, ont eu la chance de dîner un soir chez vous, Stéphane, ont pu lire dans votre cuisine cette devise que vous avez faite graver sur le marbre de votre plan de travail.
Avec amour, toujours, et de la sauce autour.
Avec amour, toujours, et de la sauce autour. Comprenne qui pourra, personnellement, je ne préfère pas comprendre. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour mes amis. Vous avez une petite faim?
Alors là, j'ai grand faim.
Vous avez grand faim.
Là, vous allez parler d'une de mes passions, je crois.
Ah, ben en plus, écoutez, et en plus, je vous en ai apporté.
Non.
Regardez.
Oh, alors ça, c'est une bonne idée.
Ah, nous allons parler de fromage.
Covid oblige, je donne d'abord à Stéphane.
Mais pourquoi?
Non, mais je ne l'ai pas infesté, je vous jure.
Faut que je l'attrape avant vous. Vous
utilisez Stéphane comme son goûteur.
Vous êtes mon goûteur aussi. Vous n'avez pas vu cette petite alinéa 3? Vous devez goûter tout mon fromage.
Et il faut attendre combien de temps pour vérifier qu'il n'y a pas de poison dedans? On a le temps de faire la chronique quand même?
Franchement, moi je mets le masque, mais sinon je fais confiance à la vie.
Bon, alors, 18 mois?
Un peu plus. Un peu plus.
24.
36. Alors ça, c'est le fromage préféré des Français.
Ah oui.
C'est aussi la plus grande appellation d'origine protégée.
Oui.
C'est le Comté. Alors c'est un fromage qui existe depuis quelques centaines d'années, mais c'est surtout qui a un système de production très original qui est à l'origine, en tout cas, de ce qu'on appelait la coopérative.
Ah bon?
En fait, le fromage de cette région était fait à l'époque dans les fermes, tout ça pour permettre, alors que les hivers étaient rudes, de garder du lait et d'avoir toujours des produits laitiers à disposition. Et pour faire une meule de Comté, il faut savoir qu'il faut entre 450 et 500 litres de lait quand même. Une meule de Comté, c'est entre 55 et 75 cm de diamètre et ça pèse 40 kg. Pourquoi on les fait aussi grosses? Pour que justement elles puissent se garder.
Bien sûr.
Et les paysans de l'époque, au Moyen-Âge, n'avaient pas individuellement suffisamment de lait et de vaches pour pouvoir faire une meule de Comté. Donc ils se regroupaient ensemble au sein de ce qu'on appelait une fructerie qui ensuite est devenue une fruitière.
Bah, fruitière, c'est...
Eh oui, une fruitière de
c'est
Comté.
C'est pas le bon nom pour du coup,
si,
pour
le Comté. Eh ben, c'est, on produit le Comté dans les fruitières. Pourquoi? Ben, parce que on partage les fruits du travail commun. D'où le nom fruiterie et aujourd'hui fruitière. On va pas dans une fromagerie quand on va acheter du Comté, on va dans une fruitière. Au passage, il y a trois départements.
Mais c'est pour ça que je t'ai dit non la dernière fois, tu m'as dit viens, on va visiter une fruitière, je m'en fous des fruits moi. Si tu m'avais dit on va bouffer du Comté, je serais venu tout de suite.
Et ben voilà. Et donc aujourd'hui, il y a trois départements dans lesquels on continue à produire le Comté, le Jura, le Doubs et un petit bout de l'Ain d'ailleurs. Il faut savoir qu'il y a deux races de vaches qui sont autorisées pour l'élaboration de ce fromage très spécifique, hein, de la Montbéliard ou de la Simmental. Je l'ai dit, appellation d'origine contrôlée dès 1958. Aujourd'hui, on dit appellation d'origine protégée. Et puis, vous savez, le Comté, quand il vieillit, il est élaboré dans les fruitières. Ensuite, il est vieilli dans des caves. Il n'en est que meilleur. Et vous savez, on a souvent une petite impression qu'il y a un petit truc qui croque.
Oui, c'est le sel, non?
Eh bien non, ce n'est pas du sel. Beaucoup de gens pensent que c'est le sel. Eh bien, ce n'est pas ça. C'est tout simplement, non, c'est de la tyrosine, qui est un acide aminé, qui se combine avec le vieillissement du fromage. Et ce n'est pas du tout du sel. Mais en revanche, c'est ce qui donne le goût et la personnalité à ce Comté.
Alors, vous allez nous donner une petite astuce pour le Comté. Vous qui on vous présente jamais Olivier Pouls. Vous posez là, mais vous ne faites jamais étalage de vos titres. Mais Olivier Pouls travaille à la Revue du Vin de France. C'est lui qui nomme les vins. Et donc, quel vin boire avec un Comté,
alors,
par exemple?
Il y a l'accord magique qu'il faut avoir essayé une fois dans sa vie. C'est le vin jaune et le Comté. Vous savez, le vin jaune qui est un vin très particulier. On en expliquera un jour d'ailleurs tous les secrets aussi. On l'aime ou on le déteste?
Oui,
avec modération en tout cas.
Oui. Beaucoup de modération, on dit que ça ressemble un peu à ceux qui n'aiment pas, disent que ça a
un
goût
peu
médicamenteux.
Mais moi, à titre personnel en tout cas, j'adore ça. Et un morceau de Comté avec un verre de vin jaune,
c'est l'accompagnement idéal.
C'est le bonheur absolu.
Est-ce que je peux vous poser la question qui tue? Il y a le Comté, mais on vous propose aussi le Beaufort. C'est deux...
Ce sont des appellations différentes. Qui sont des fromages de montagne en réalité.
Oui.
Et pas très loin, en Suisse, vous avez le
Gruyère. Le Gruyère qui n'a pas de trou.
Non. Qui n'a pas de trou, contrairement à l'Emmental.
Évidemment, qui est un cousin du Comté en réalité.
Oui.
Et longtemps d'ailleurs, on a appelé ce fromage le Gruyère de Comté.
Ah oui.
Parce qu'il est très inspiré du Gruyère suisse.
Oui. Il y a la Penzelle aussi qui est pas mal aussi.
Et alors, petite idée ce soir, si vous savez pas quoi faire pour le repas.
Une bonne raclette. Vrai que pour une fin d'été.
Non, mais un soufflé au Comté, par exemple.
Ah, c'est très, très
compliqué. Mais non, c'est extrêmement simple.
C'est simple.
C'est simple, évidemment. Toi, tu demandes à Nestor.
Si vous me donnez 30 secondes, j'ai la recette. Vous faites une béchamel. Vous savez, c'est du beurre avec de la farine et du lait. Donc, 60 grammes de beurre, 60 grammes de farine, 40 centilitres de lait. Vous allez rajouter dedans 4 jaunes d'œufs. À côté de ça, vous battez les blancs en neige, vous mélangez tout ça, vous rajoutez 150 grammes de Comté râpé, vous beurrez les moules ou un grand moule ou des moules individuels pour votre soufflé, et vous mettez ça dans un four 180 degrés à chaleur
tournante.
Oui, pendant 35 minutes.
35 minutes.
Et, pourquoi ouvrir, et alors surtout, on mange surveiller. Dès, on n'ouvre pas le four et on monte, on mange dès que c'est prêt.
Et, oui,
et c'est pas les, c'est et pas le soufflé qui attend les convives, c'est les convives qui attendent le soufflé.
Et quand on est très très nul en cuisine comme moi, faut bien préciser, on n'ouvre pas le four pendant le
cuisson.
Non,
non, non,
parce que moi je l'ai fait.
Il retombe.
Je me suis fait défoncer à la maison quand j'ai eu le malheur d'ouvrir pour voir où on en était.
Mais c'est rien à côté de la défense du soufflé. Qui lui a dû retomber. Oui,
j'ai eu un petit peu peur, mais cette phrase se termine bien. Merci beaucoup.
Je vous laisse compter, les amis.
Merci Olivier
Pouls.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, le moment de l'émission que vous n'avez pas envie de rater, le portrait de notre troisième personnage, portrait toujours haut en couleur puisque signé Bibi. Alors, Shakira a-t-elle inspiré ma plume aujourd'hui? Vous le saurez dans quelques secondes, mais c'est vrai que ce portrait reflète bien mon talent, c'est tout ce que ces fans aiment chez moi. Je suis cultivé, observateur, irrévérencieux.
Et puis t'es con, c'est sacrément con, j'ai même jamais vu un con pareil. C'est presque aussi con que ma belle-mère.
Quand même pas votre belle-mère, Stéphane.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi, c'est un morceau de bravoure. Il brosse le portrait de notre troisième personnage du jour, un portrait garanti 99% vrai. Après Albert Camus et Pablo Picasso, vous nous parlez, cher Mathieu, d'une femme qui est aussi fan de foot, mais visiblement beaucoup plus proche de vous.
Oui, enfin Stéphane, on est plus proche de moi, j'aimerais bien. Papa, c'est proche à mon goût, si vous voulez. C'est une femme extraordinaire. Si je vous dis Waka Waka Waka.
Brigitte Macron.
Ah non Stéphane, on va pas faire tous les jours Brigitte Macron, il y a d'autres femmes extraordinaires. À commencer donc par notre troisième fan de foot du jour, Shakira. Cette star de la pop, dont le déhanché Muy Caliente, découvert en 2002, aurait arraché à Jean-Pierre Marielle cette réflexion empreinte de poésie.
Ah non, de Dieu de bordel de merde.
Ici, vous entendez Waka Waka Waka. Alors évidemment, côté parole, c'est pas du rodagile. Hein. On dit même que c'est en apprenant qu'elle avait vendu 5 millions d'albums avec Waka Waka que Jean-Loup Dabadi avait définitivement remisé son stylo, déclarant, je cite, « C'est plus la peine de se faire chier ». Nous sommes en 2010, cette chanson a été écrite pour le Mondial de foot dont elle devient l'hymne. Au fait, Stéphane, qui remporte le Mondial en 2010?
Brigitte Macron.
Non, l'Espagne, Stéphane. L'Espagne, et ça a son importance, car c'est en tournant le clip de l'impérissable chef-d'œuvre Waka Waka que Shakira découvre simultanément le foot et l'amour, réunis en une seule et même personne, un dénommé Gérard.
J'ai un tatouage qui se déplie. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille.
Alors,
est-ce que ça t'intéresserait de le voir?
Pas celui-là, Stéphane. Heureusement pour elle, quelque part. Le Gérard qui lui tape dans l'œil, c'est Gérard Piqué, le défenseur du FC Barcelone, un des piliers de l'équipe espagnole. Type robuste, barbu, solide sur ses appuis, dont elle fait la rencontre sur le tournage du clip Waka Waka. Rencontre qu'elle résumera plus tard ainsi. Je n'étais pas fan de foot, je ne savais pas qui il était, mais quand je l'ai vu en vidéo dans mon clip, j'étais comme « celui-là, il est mignon ». Seulement voilà Stéphane, c'est pas du tout cul non plus pour Gégé. Vous connaissez les chanteuses?
Faut leur lécher le derrière avant de les tamponner.
Non, pas du tout. Il faut se montrer original quand on tente de les séduire car elles sont très courtisées. C'est ça que vous voulez dire certainement. Et là, question originalité de la drague, vous n'allez pas être déçus. Quand on pense aux lettres fadasses que s'envoyaient Mitterrand et Anne Pinjot, là, Gérard frappe fort d'entrée. Donc il a chopé le numéro de Shakira et comme elle arrive en Afrique du Sud un peu avant lui pour la cérémonie d'ouverture du Mondial, il raconte. Je lui ai envoyé un SMS pour savoir quel temps il faisait sur place. En général, quand on envoie une question aussi stupide, on a une réponse du type « il fait froid, prends un manteau ». Mais elle a écrit un long paragraphe avec les détails sur les changements de température dans la journée. Je me suis dit alors « Jésus, ce n'est pas normal ». Je trouve toujours rassurant de voir que les couples les plus glamour du monde se sont parfois pécho en échangeant d'affligeantes banalités. Bref, entre Gérard et Shakira, la sauce prend. Très vite, elle lui dit, reprenant la fameuse devise de Stéphane Bern lorsqu'il est en vacances au Cap d'Agde, whenever, wherever, soit où tu veux, quand tu veux. Gérard, pas con, qui sait que souvent femme varie, dit tout de suite. Et c'est le début d'une idylle qui dure depuis plus de 10 ans, relation que Shakira analyse admirablement en disant, je cite, « Sortir avec un footballeur, c'est comme sortir avec un soldat, mais sans la peur. » Car oui, Stéphane, Shakira est aussi une intello, doublée d'une féministe. Ah oui, elle
découvre.
A déclaré ne pas vouloir épouser Gérard. Déjà sans doute parce que Piqué, ça fait plus nom de famille d'une CPE frigide d'un lycée correctionnel dans la Sarthe, Madame Piqué, que star internationale, mais aussi, dit-elle, parce qu'elle préfère qu'il continue de la voir comme une maîtresse, une petite amie, un fruit défendu. Revendiquant un joli 140 de QI, Shakira peut en outre envoyer dans leur corde nos deux autres personnages du jour. En effet, comme Picasso, elle peint, alors uniquement à base d'œufs au plat. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, elle peint avec des œufs au plat.
Mais le jaune et le blanc.
Elle fait les deux, j'imagine, c'est bicolore. Quant à Camus, elle n'a rien à lui envier non plus, surtout quand vous l'interrogez sur sa conception de l'amour, je cite « Un amour sincère ne se termine pas, Il connaît des virgules, jamais de points.
Pas à condition qu'elle soit majeure et consentante.
Stéphane, vous salissez tout. Même la pensée de Shakira. Mais l'amour, cet amour que bafoue Stéphane, c'est aussi se soutenir en cas de coup dur. En 2017, alors que rien ne semble pouvoir troubler la quiétude du couple star, patatras, une corde vocale de Shakira part en couille. Il faudra à Gérard beaucoup d'abnégation pour supporter la rééducation vocale de sa compagne et surtout du talent d'acteur pour lui faire croire qu'elle progresse.
Non, c'est très intéressant, c'est très personnel.
Heureusement, Shakira finira quand même par retrouver sa voix. En février 2020, elle se produit, vous vous en souvenez peut-être, sur la scène du Super Bowl lors de la finale avec Jennifer Lopez. Séquence visionnée 180 millions de fois sur YouTube. À regret, la vidéo de Stéphane Bern reprenant « Donner pour donner » en duo avec Hélène Ségara pour le site Action en 2013 n'a pas rencontré le même succès.
Heureusement.
À tort.
Je te donne mes espoirs.
Non. Vous n'avez pas le droit de reprendre.
J'ai tous les droits. Alors, Stéphane, je sais que c'était pour le site Action, hein, mais comment vous dire ça sans trop vous froisser? Oui, dans la vie, il faut savoir ce pourquoi on est fait. Stéphane Bern chantant France Gall, c'est comme si, je sais pas moi, Shakira reprenait une chanson de Francis Cabrel.
Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui.
Oh merde.
Je suis le gardien.
Oh putain, elle l'a fait. Oh, je crois que je préfère encore que vous chantez France Gall.
Je te donne ma
foi. Non. D'accord, je préfère Shakira.
Elle a du fer.
C'est quand même mieux.
Bon, en tout cas, merci Mathieu, c'était 99% vrai. La chronique qui suit, elle, en revanche, est 100% vraie. Normal, c'est la mienne.
Oui, Stéphane, oui. Chaque jour, c'est le pompon de cette émission. Oserais-je dire la queue du Mickey. Vous nous dévoilez l'histoire d'une expression qu'on utilise au quotidien sans avoir la moindre idée de son origine.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre chaque après-midi, 2 heures d'une chevauchée intrépide sur le fougueux étalon du savoir.
Moi ?
Non, pas vous Stéphane, c'est une image pour dire qu'entre 16h et 18h désormais, on s'amuse tout en parcourant l'histoire.
Ah, c'est ça, d'accord.
Voilà, aujourd'hui c'était une spéciale fan de foot avec Albert Camus, Pablo Picasso et Shakira. Et justement, votre dernière chronique portant sur l'origine des expressions françaises, on peut signaler que le monde du foot, et notamment les commentateurs de foot, sont souvent précurseurs en matière d'expression. Souvenez-vous, la dernière Coupe du Monde.
J'aime Mbappé, tu aimes Mbappé, il aime Mbappé, nous aime Mbappé, on vous aime Mbappé, il aime Mbappé. On adore la conjugaison, vive Mbappé.
Je berne, tu bernes, nous bernons. Stéphane, de quelle expression allez-vous nous parler dans votre fin mot de l'histoire?
Eh bien, cher Mathieu, je tenais pour ce vendredi à terminer la semaine en douceur et plein de bienveillance. C'est en effet un 4 septembre que le pape François a canonisé avec raison Sainte Thérèse de Calcutta, plus connue sous le nom de Mère Thérésa. L'expression du jour sera donc « avoir le cœur sur la main ». Alors, le cœur a inspiré de nombreuses expressions. On peut avoir le cœur qui bat la chamade, on peut avoir un cœur de pierre, un cœur en or, un cœur d'artichaut, on peut en avoir gros sur le cœur, on peut avoir le cœur au bord des lèvres. Mais là, avoir le cœur sur la main signifie être généreux. Et il paraît, après enquête, que Mathieu Noël est effectivement un être ayant le cœur sur la main, surtout l'été, il y a quelques années, dans la boîte de nuit du Papa Gagnon. De nombreuses Ukrainiennes savonnées au champagne.
Non, j'allais pas au Papa Gagnon, j'allais au Cave du Roi. Je vous remercie d'être précis dans l'histoire.
Le champagne est plus cher. Mais revenons à Mère Thérésa et à l'expression « avoir le cœur sur la main ». Étrangement, jusqu'à la fin du 18e, avoir le cœur dans la main signifiait avoir la nausée, un peu comme avoir le cœur au bord des lèvres, signifiant qu'on est prêt à donner au fond son bien le plus précieux. Le cœur parle d'amour, symbolise la générosité, c'est l'organe qui symbolise par excellence la force de l'âme, mais de façon contradictoire. Avoir la main sur le cœur peut signifier aussi mentir. Ah oui, il m'a raconté ce bobard, la main sur le cœur. En fait,
c'est un truc qu'on dit souvent, effectivement, au
non,
quotidien.
Non, vous dites jamais ça?
Non, ça m'arrive rarement, mais vous certainement, Stéphane.
Vous avez du cœur, pourtant. Notons avec malice qu'en Tunisie, on trouve « avoir grand cœur ». On trouve également l'expression « avoir la main généreuse », mais à aucun moment en Tunisie, le cœur ne vient sur la main. Continuons notre petite visite internationale. À la place d'avoir le cœur sur la main, au Pays de Galles, on dit « avoir le cœur propre ». Et en Espagne, « être meilleur que le pain ». C'est assez poétique.
Ouais, c'est
hein.
Pas mal.
Voilà. Pour rester dans la poésie, j'aimerais citer, une fois n'est pas coutume, un rappeur, Gringe, le complice d'Orelsan. Comme celle à qui j'ouvre mon cœur et qui aura bientôt à cœur de me l'ôter, je vais devoir lui dire qu'aimer, ça fait mal, comme dire la vérité.
MC Bern, vous écoutez beaucoup de rap, Stéphane, en tout cas vous avez tout de suite la bonne intonation.
Il y en a quelques-uns que j'écoute, oui, avec...
Comme qui, Pierre Perret?
Non.
Non, je ne sais pas quelle époque de rap vous parlez.
Non, mais ça, j'adore Soprano, j'adore Aurel San. Non.
Ah, eh bien, écoutez, Stéphane, vous me surprenez de jour en jour.
Oui, vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos peines.
Et quel bilan, une fois de plus, pour Historiquement Vôtre. 2 heures d'une densité phénoménale où nous aurons appris que Pablo Picasso, bien que né à Malaga, était un supporter du Barça, qu'un joueur de foot peut décrocher un prix Nobel de littérature, Albert Camus l'a prouvé, et où Stéphane Bern aura tenté de remuer son corps sur du Shakira. Prestation saluée par Shakira elle-même.
C'est affreux, horrible.
Sérieusement, vous dansez parfois, ça vous arrive Stéphane de danser?
Oh, comme tout le monde, oui.
Ah, vivement la fête du CE. Hein.
16h, 18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre.
Historiquement Vôtre s'achève. Oui, vous savez, il ne faut pas abuser de la générosité de Stéphane Bern qui, comme je l'ai également souligné à plusieurs reprises dans l'émission, n'a plus 20 ans. Et non, 2 heures, ça fait long pour lui. Vient un moment où fatalement il fatigue. Et tel Alain Decaux, imitant Murat, dans une vaine tentative de dynamiser son émission télé, il s'exclame:
foutez-moi tous ces gens-là dehors!
Oui, bah restons tout de même polis avec nos auditeurs, Stéphane. Ils vont y aller, promis.
Oui, mais ils reviendront demain, j'espère.
J'espère.
Dès 16h pour Historiquement Vôtre.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.